Les principaux pays d'origine sont l'Afghanistan et la Guinée. Et puis on apprend aussi qu'une quarantaine de migrants ont été interceptés alors qu'ils tentaient de traverser la Manche par la mer entre la France et l'Angleterre. La plupart sont de nationalité iranienne avec parmi eux une dizaine d'enfants. Enfin, l'Open de tennis d'Australie, la suite et la fin du premier tour. Pas de grosses surprises aujourd'hui. Nadal, Medvedev, Thiem et Kyrgios, tous ont gagné. De même chez les dames que Pliskova et Halep. Côté français, le bilan de la journée est mitigé. Gaël Monfils, Benoît Paire, Gilles Simon sont au deuxième tour. C'est la fin du journal. Merci d'avoir été.
Radio G. 101.5 FM.
Vous aimez Radio G? Soutenez-la. En faisant un don à notre association reconnue d'intérêt général, vous contribuerez à son développement et à la réalisation de ses nombreux projets culturels, radiophoniques et d'éducation aux médias. Radio G compte sur vous. Rendez-vous sur radio-g.fr dans la rubrique « Faire un don ». Votre participation sera déductible de vos impôts. Alors, n'hésitez plus.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, vous écoutez L'Oreille Curieuse, bienvenue dans la quotidienne des actualités culturelles et locales sur Radio G. Si vous étiez avec nous hier, vous remarquez sans doute qu'on retrouve le calme de nos studios, mais on sera à nouveau demain au cœur du festival Premier Plan depuis le centre des congrès. Vous pouvez assister à l'enregistrement si vous voulez, de 15h à 16h. C'est gratuit, c'est dans le hall, c'est super facile. Ce soir, au studio, on retrouve, comme chaque mois, le Centre culturel Jean Carmet. Et ensemble, nous allons parler de la programmation à venir. Il sera question de Dédale par la compagnie du CRI, de Ulysse 21 par la compagnie des Ongles Noirs et d'une soirée sans Valentin. Voilà un petit peu le programme pour les 40 prochaines minutes. Et je vous dis à tout de suite, je vais vous présenter tous mes invités. On est hyper nombreux dans le studio. Alors pour cette émission consacrée au Centre culturel Jean Carmet, je vous l'ai dit, on est très nombreux et c'est chouette. Il y a Aurélie du Centre culturel Jean Carmet. Bonsoir Aurélie. Ah, j'ai oublié d'ouvrir le bon micro d'Aurélie, je suis désolée. Voilà, c'est ma première erreur.
Bonjour Aurélie.
Il y a Fabio Longoni, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Tu es comédien et auteur et on va te retrouver derrière le spectacle de Dédale et de Ulysse 21 dont on va parler ce soir.
C'est ça.
Il y a Michael Erguet qui peut trouver un micro. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et tu es comédien. Oui. On te voit dans Ulysse 21.
Voilà, tout à fait. J'ai d'autres casquettes aussi dans d'autres projets.
Oui.
Mais voilà. Mais ce soir, je suis comédien.
Je donne que les casquettes d'aujourd'hui. Sinon, on est perdu. Juliette Erringer est avec nous aussi. Bonsoir.
Bonsoir.
Et tu es metteuse en scène. Tu as mis en scène Dédale et Ulysse 21.
C'est ça.
Et enfin, Clovis Hougron. Bonsoir.
Bonsoir.
Le représentant pour aujourd'hui du Souffle du Larsen.
Tout à fait.
Donc plein d'invités, on va parler de trois dates, Aurélie, ce soir, et la première, c'est la prochaine, c'est celle de Dédale.
Oui.
Moi qui me regardais avec des grands yeux.
j'ai préparé mon émission ce soir.
Ce sera le 24 janvier à 21h.
Oui.
À Jean Carmet. J'ai envie de me tourner vers l'équipe représentative de Dédale, Juliette, Fabio. C'est un spectacle qui mélange théâtre et musique et qui est énoncé aussi comme le journal d'un rêve. Comment vous le résumez, vous ?
Bah oui, effectivement, c'est un spectacle qui mélange théâtre et musique, comme toutes les créations de la Compagnie du Cri, Murmure, Avant ou Hurlement. Mmh. On est et des musiciens sur scène et des comédiens. Et effectivement, on est sur les rapports rêve-réalité. Donc on a écrit une histoire à plusieurs où on est dans un bureau avec des collègues qui échangent sur leur quotidien. Et puis soudainement, ça part dans le domaine des rêves et... Et le personnage principal nous raconte cette confusion entre rêve et réalité, alors qu'il est en train de prendre un café avec ses collègues, par exemple.
Ça part d'une situation hyper pragmatique, quoi, quotidienne.
Ouais, c'est le but dans notre écriture de mélanger quelque chose d'abstrait, onirique, avec quelque chose de concret. Okay. Donc les collègues autour du café.
Et puis dans la mise en scène, c'était important de créer un cadre quotidien, précis et bien visible, pour ouais. ensuite pouvoir se permettre de casser ce cadre-là ouais. et de flouter les frontières entre ce qui était réel, ce qu'on nous a montré au début du spectacle, et tout ce qui appartient ensuite au monde onirique.
Ouais, le but, c'est quand même de raccrocher le spectateur, même si c'est barré, délirant, un univers, je ne sais pas, lynchien ou...
On peut être un peu perdu
Oui,
parce que j'ai l'impression que...
Oui, ouais. Oui, mais c'est le titre du spectacle, c'est Dédale, on est perdu dans un labyrinthe, et en même temps de se raccrocher à des éléments très concrets. Que des gens qui bossent dans un bureau voient tous les jours leur chaise de bureau, leur machine à café, les conversations entre collègues. Avant d'être comédien, il y a longtemps, j'ai bossé en entreprise et effectivement, une sorte de systématisme qu'on connaît tous au boulot. Comment ça va, les enfants, ça va, le grand, il va bien, le moyen, tout ça.
Tu prends l'apéro ?
Voilà, l'apéro. Il y a le pot du collègue qui s'en va. Alors, et à l'époque, on pouvait boire de l'alcool encore dans les apéros. Ouais.
Oui,
l'entreprise.
Il y a
vraiment,
bien longtemps.
Ça a été banni parce que les gens ne bossaient plus.
Ouais. Mais oui, l'idée c'est de se raccrocher au cadre et puis aussi de se raccrocher au parcours d'un personnage, voilà, notre héros qui n'a pas encore, qui n'a pas de nom, voilà, qui peut être identifié, identifiable ou pas. Et c'est de suivre un petit peu sa. Il y a un moment de sa vie quand on le rencontre où il a un peu tout. Et c'est là où il commence à se poser un peu des questions, c'est-à-dire que les choses qu'il a vécues auparavant, les traumatismes de l'enfance ou pas d'ailleurs, enfin commence à le rattraper. C'est un petit peu une crise, moi j'identifie ça comme ça, oui. Une crise identitaire qui va passer par le biais des rêves et la quête de ce personnage-là, c'est de réussir à vivre avec ce qui le hante et qui ressort dans ses rêves et à quand même continuer sa vie. Malgré ce qui le hante lui et qui nous hante tous, sans qu'il soit question de tragédie particulière.
C'est un spectacle à la fois voilà, onirique et très léger en même temps. On l'a joué devant, on l'a joué une quinzaine de fois devant du tout public et aussi des lycéens, avec lesquels j'ai travaillé sur leurs rêves, etc. Et c'est intéressant de voir leurs réactions. Les premières, on l'avait fait même devant des quatrièmes ou des troisièmes. On s'est dit, ouais, ils sont peut-être un peu jeunes. Et non, ils étaient rentrés dans l'humour décalé et aussi cette impression de rêve. Et je suis intervenant en bac théâtre. C'était drôle même de tomber sur des dossiers qui parlaient du spectacle, où ils parlaient de cette immersion dans le domaine du rêve. Voilà.
Parce qu'on ne sait pas tout à fait à quel moment on est dans la réalité, dans le rêve, comment on bascule d'une chose à l'autre.
C'est ça.
On a des codes, quand même, des codes musicaux. Il y a des effets sur scène en direct. Gwenla Barta travaille sur les voix qui passent dans les micros, qui sont déformées. Il y a un moment, il y a des phrases à l'envers aussi, comme dans les rêves de Lynch. Voilà, on dit une phrase à l'envers et puis hop, elle est remise à l'endroit ensemble, etc.
Et puis il y a des éléments qui reviennent régulièrement. Mmh. Voilà.
C'est une pièce que vous avez écrite, il y a la musique aussi qui a été composée, enfin tout a été réalisé, imaginé par la Compagnie du Cri. Je me demandais par rapport à la mise en scène, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé dès le début ou qui est apparu après en ayant le texte, en ayant les premiers éléments ?
Non, la mise en scène, c'est vraiment fait une fois que le texte et une partie des musiques, les grands thèmes musicaux ont été composés. On est en train de me prendre en photo, alors je rougis. Mais donc la mise en scène, elle est intervenue vraiment à la fin du travail d'écriture et d'une partie de la composition. Parce que moi, j'avais vraiment besoin d'avoir des éléments concrets pour savoir où placer cette histoire, quel cadre on pouvait créer. Et voilà. Et après, c'est une mise en scène qu'on a créée, je dirais pas de manière collective, mais il fallait qu'il y ait des propositions de l'équipe au plateau pour qu'on puisse déterminer le cadre du spectacle et le caractère de chacun des personnages. Voilà, on a quatre personnages très forts. Mmh. Le personnage principal, Antoine, Henri, ses deux collègues et le stagiaire, Benoît.
Très voilà. Important, hein, stagiaire.
Très important, oui. Le stagiaire. Voilà, et ça s'est fait vraiment pendant le travail de répétition, de déterminer le caractère de chacun, les relations qui pouvaient les relier, et voilà.
Puis il y a plusieurs manières d'écrire un spectacle. Il y a une manière prévue à table, et puis ça dépend hein, des écritures des auteurs dramatiques. Et là, on écrit à plusieurs, avec Olivier, nos spectacles, donc c'est toujours des créations originales. Et là, il y avait une grande part d'improvisation aussi, dans les musiques, dans des scènes improvisées. On dit, tiens, on garde ce passage-là.
Donc, à chaque spectacle, c'est réimprovisé?
Non, alors, il y a des parties réimprovisées. Ce que je voulais dire, c'est pendant le processus de création, pour avoir un langage plus parlé, plus quotidien, il y a
des choses qui n'étaient pas fixées
d'avance. Qui n'étaient pas prévues à l'avance, ouais. Qui étaient trouvées en improvisant, pendant des séances laboratoires.
Et par rapport à la composition de la musique, il y a aussi eu beaucoup de collaborations, oui. Je crois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cet aspect-là, qui est aussi très important? Là, on a plus parlé de l'aspect théâtre, oui. L'aspect mise en scène, comédien, mais il y a de la musique dans Dédale.
Il y a Olivier Messager, avec qui je travaille, qui je suis en binôme dans la création de la compagnie, dans les créations, qui lui a amené son univers, ses compositions, ses arrangements, et puis une batterie d'instruments aussi. Là, son piano... dans lequel il y a un sampleur aussi, que Gwen a mis des sons d'orgue, des sons particuliers. Il y a différents handpans, des hangs, des sortes de soucoupes volantes ou de barbecue là.
Des choses en métal qui résonnent.
Voilà, c'est ça, tout à fait, des choses en métal qui résonnent. Donc voilà, donc il y a ces instruments-là d'un côté, il y a un mélodica basse. Et de l'autre côté, il y a Yvan Riguillonnet, qui est un improvisateur aussi, qui a amené ces instruments à lui, qu'il a confectionné lui-même. Donc c'est un créateur d'instruments, il a une table de bureau qui fait une sorte de son avec des archets, ça fait penser à un harmonium.
Puis un peu scie musicale.
Oui, une scie musicale un peu, ça fait penser à ça.
Et il a une table de percussion.
Oui, sa table de percussion avec des éléments de bureau, qu'on entend dans les bureaux, et un harmonium, je crois, un cymbalum.
Un cymbalum, voilà. Ouais.
Un instrument de cigane, qui viendrait d'ailleurs de chez les Taraf de Haïdouk, c'est un des grands groupes...
Là, je découvre, hein. Je ne peux que vous croire.
Voilà, donc, en tout cas, il y a ces deux univers complètement différents d'Olivier et de Yvan Rie qui se rencontrent et qui sont mélangés. Et plus Gwen Labarta qui, lui, trafique le son en direct. Donc, c'est pour ça que chaque représentation a sa part d'improvisation au niveau sonore et au niveau jeu.
Et les instruments de musique sont la scénographie, sont les accessoires, sont les éléments de décor. C'était vraiment l'idée de confondre et le monde de l'entreprise et un plateau rempli d'instruments de musique et de créer une image de bureautique avec ces éléments-là.
Ouais, là, je rebondis un peu sur la partie éléments de bureau, parce que c'est vrai que Dédale s'est annoncé comme un spectacle qu'on peut voir entre collègues de bureau. Mais je sais pas, c'est une pratique qu'on fait souvent, peut-être, à tort.
Mais oui.
Venez avec vos collègues.
Ça arrive.
Oui, venez avec
vos collègues. On n'est pas encore dans les comités d'entreprise, mais...
Oui, c'est ça.
Ça pourrait.
Bah oui, venez avec vos collègues.
Ça dépend peut-être de ses collègues.
Venez avec le service comptable, venez avec...
Parce qu'en fait, la scène, ça représente un petit open space. C'est ça, en fait. Vous êtes tous les uns sur les autres, pratiquement. Avec les instruments, plus les éléments de bureau, la machine à café.
La machine à café, les tasses de café... Et oui, c'est ça. Ça représente. On a imaginé une entreprise qui s'appellerait Oneros, du dieu des rêves grecs, et qui est une entreprise de livraison. Comme aujourd'hui, on reçoit beaucoup de choses livrées, on ne sait pas d'où elles viennent.
Comment ? On espère que ça arrive très vite aussi.
Oui, voilà, on espère que ça arrive vite. Ouais. C'est quelque chose de très concret aussi, voilà, l'objet qu'on reçoit.
Et pour ce qui est de la composition musicale, je trouve que c'est important de dire qu'il y a une vraie invention. Dans la pratique des instruments et dans ce qu'on en fait, comment on les détourne, et que ça c'est important aussi pour dessiner cet univers onirique, c'est que on entend des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et par les instruments originaux qui sont présents sur le plateau, et par ce que Gwen propose ensuite en retravail des sons en direct, que ça c'est une grande part de rêve, voilà.
Et je me demandais, Fabio, tu voulais peut-être réagir à ce que tu...
Si je repensais au rêve, effectivement, c'est le but, c'est quand le spectateur vient, c'est de se laisser embarquer et que ça le fasse penser à ses propres rêves, ou, enfin, que ça résonne au moins, Et c'est des... On a eu des retours de spectateurs là-dessus, donc ça, là-dessus, on était contents, ravis de savoir, ça leur a fait vraiment penser à une ambiance de rêve. Et sur scène, c'est plus compliqué que dans un film, entre guillemets, où on voit bien le code, l'illusion, d'ailleurs on en joue, hein, du théâtre dans le théâtre, comment jouer avec ça. Et si aussi pour le processus d'écriture, c'est la première fois où un spectacle a vraiment influencé autant sur mon inconscient, parce que j'ai noté mes rêves pendant un an, pas forcément pour les replacer sur scène, hein, mais être dans cette ambiance onirique et de replonger, de recueillir, tiens, qu'est-ce qui me traverse, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui fait partie des rêves. Et c'est une expérience que je conseille à tout le monde, parce que ça fait du bien déjà, parce qu'on rêve tous, c'est juste qu'on ne se souvient pas de ses rêves, de replonger, du coup c'est un contact direct avec son inconscient, des questions qu'on se pose, des blocages qu'on a. Et voilà, c'est une thérapie gratuite, quoi.
C'est super. Et puis en plus, il y a plein d'histoires assez amusantes en général. Oui. Enfin, pas toujours, mais.
Pas toujours.
Ça dépend des rêves.
Moi, j'ai une question concrète pour le coup par rapport à ce travail que tu as fait sur un an. C'était au réveil que tu notais ou tu, style, tu te réveillais dans la nuit et tu notais. Est-ce que tu avais une règle dans la façon de décrire tes
un
rêves
petit conseil.
Ouais.
Donc c'était effectivement au réveil. Parce que sinon, plus le temps passe, plus le souvenir se délite et de moins en moins précis. Donc c'était vraiment au réveil. Je ne me réveillais pas forcément la nuit. Hein. C'est au réveil, j'avais soit un papier stylo, soit dans mon téléphone. Une note.
D'enregistrer sinon on peut.
Alors enregistrer, je ne faisais pas à l'époque. Aujourd'hui, pour essayer des textes ou improviser des textes, j'enregistre. Mais à l'époque, non. Je les notais donc à la main sur mon clavier. Tac, 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 voilà. Et effectivement, le fait de le noter le plus tôt possible après le réveil, il y a plein de détails qui viennent et qu'on perd très vite. Et après, grâce aux mots tapés, ça résonne et l'image revient. C'est assez impressionnant et les sensations reviennent. Il y a des règles hein, oniriques. Hein. Là, j'ai retravaillé sur les rêves avec des lycéens, des découvertes qui ont été faites en neurosciences. Et il y a vraiment des choses qui sont difficiles à faire en rêve, comme par exemple lire. C'est très rare de réussir à lire. C'est un phénomène neurologique où on a du mal à se concentrer sur les lignes. On fait souvent des rêves négatifs. C'est normal, des blocages, l'inconscient.
Des choses qu'on n'arrive pas à faire.
Voilà, sur lesquelles on bloque dans notre vie. C'est normal. Hein. Voilà.
Ouf!
Qui sont envoyés sous forme censurée, voilà, c'est normal, tout va bien,
tout va bien.
Tout est normal.
Et pourquoi vous avez eu envie de travailler sur le thème du rêve? Parce que peut-être c'est évident pour vous, où il y a ce côté...
Ouais, c'est vrai qu'il y avait une évidence par rapport au travail qu'on avait déjà fait avec Olivier, on bosse ensemble depuis 2011, et nos deux spectacles n'étaient pas sur les rêves, mais il y avait déjà une ambiance onirique, avec les instruments qu'utilise Olivier, avec l'univers qu'on a, qui est un peu décalé et barré. On a un imaginaire assez riche, quoi. On avait fait des spectacles qui étaient sur des sortes de... Des histoires, des nouvelles, des scénettes, murmures ou hurlements. Voilà. Et là, on s'est dit, tiens, pourquoi pas partir sur le domaine des rêves. Ça nous paraissait assez évident, notre travail.
Ouais. Je ne sais pas si vous voulez ajouter une dernière chose sur Dédale, parce que vous êtes aussi venu avec un autre spectacle, Ulysse 21. Oui.
Non, juste pour ce... Pardon.
Ouais.
C'est vendredi, donc, à 21h.
Oui, le
21. Et si vous voulez voir des teasers sur notre site, par exemple, ou sur Internet, c'est www.cieducri.com.
Ça veut dire Compagnie du Cri.
Voilà.
Voilà, vous tapez Compagnie du Cri, ça fonctionne. Donc, vendredi à 21h, ambiance onirique. Et vous avez aussi imaginé, alors cette fois, avec la Compagnie des Ongles Noirs, un petit peu différent, presque les mêmes invités mais pas tout à fait, Fabio tu es toujours auteur, comédien, oui. Tout ça, Juliette tu as toujours fait la mise en scène et Michael toi tu interviens en tant que comédien dans cette création là. Ulysse 21 ce sera le 7 février à 21h aussi, j'ai bien dit Ulysse 21 parce que je trouve que le titre est assez piège,
oui.
Ce qui nous renvoie à Ulysse 31.
Ça ressemble pas du tout fait exprès.
Ça ressemble pas du tout fait exprès. Pas du tout.
J'ai une petite anecdote rigolote.
Ah une anecdote, Michael.
Ouais, ce midi, en fait, j'étais en réunion pour un projet scolaire à venir, là, dans une école. Et je parle d'Ulysse 21, comme ça. Et l'instit, elle me dit « Ah, mais je connais Ulysse 21, ça me ramène dans mon enfance.
Ouais. »
Et non, c'était Ulysse 31. Ah oui, et comme quoi ça marche.
Oui, oui. Bah, c'était le but, ouais.
C'est Fabio qui a eu l'idée de ce titre, Ulysse 21. Pour faire justement écho à Ulysse 31 qui t'a bercé en fait dans ton enfance.
Oui. Vu mon âge avancé comme
nous ne pouvons pas
autour
le
de la table. Mais on a non. je regardais Ulysse 31 dans les années 80, voilà. Et après ça a été rediffusé. Donc je sais que plusieurs générations ont pu voir Ulysse 31. Donc c'est Ulysse au 31e siècle et donc là c'est Ulysse au 21e siècle.
Donc là, c'est vraiment le principe. Donc on parle pas du tout de télévision, de séries, etc. C'est du théâtre, de la musique, il y a de la danse aussi. Il y a tout ça. Il y a d'autres choses que j'oublie. Non, ça va.
Non, 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 il y a des, des un petit peu de scéno.
Oui, oui, enfin, les ingrédients habituels. Mais encore une fois, c'est un spectacle pluridisciplinaire.
Mmh. Voilà. Ça, c'est important aussi dans vos démarches. Et c'est la transposition donc, de l'histoire d'Ulysse au XXIe siècle. Pourquoi vous avez décidé de le ramener au XXIe siècle? C'était pour faire un pied de nez à 31?
Alors oui, c'est, bah, ce qui m'intéressait, c'était de voir ce héros qui a dans les fondations, j'allais dire les fondements de nos mythes en Occident, voilà, la figure du héros. C'est une des premières histoires, l'Odyssée avec l'Iliade, du monde occidental et même de la Méditerranée. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment serait Ulysse aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, si Ulysse est un héros selon moi, avec forcément, hein, avec ma subjectivité, comment je le verrais, pour qu'on puisse se reconnaître. Et, voilà. Et c'est aussi la suite d'un autre spectacle de la Compagnie des Ongles Noirs que j'avais mis en scène, mais pas écrit, que j'avais co-écrit, qui était le Serment de Tindare, une adaptation de l'Iliade. On a vraiment fait on a créé une sorte de diptyque. Voilà.
Donc c'était la suite logique de revisiter l'Odyssée d'Homère.
Voilà. Et encore le terme attaquer, il y a quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de guerrier dans l'Iliade. Et là, qu'on retrouve de Ulysse qui s'attaque aux monstres de nos jours, les mots de notre actualité. Quels seraient les monstres? Qui seraient Charybdis et Scylla, les sirènes aujourd'hui, etc.
Ouais, c'est vraiment l'idée de la transposition. Alors, comment vous avez choisi, quelle est la quête de ce Ulysse du XXIe siècle? Comment il est, ce personnage?
Il a des points communs avec l'Ulysse d'Homère, où il est en une sorte de quête initiatique et d'identité. Parce qu'il part quand même, dans l'Odyssée d'Homère, il part 20 ans, et chez nous, là, il part une dizaine d'années. Donc il veut rentrer chez lui, mais il ne peut pas. Et donc dans cette errance, il trouve un sens à sa lutte au fur et à mesure. Donc il y a une quête identitaire. Et c'était quoi ta question déjà? C'était
voilà. Donc,
j'étais perdu. J'étais perdu sur le...
C'était qu'est-ce qui caractérise ce Ulysse du 21e
siècle.
On est sur Ulysse 21.
Qu'est-ce qu'il caractérise? Oui, il y a. Ce qui nous intéressait aussi, c'était de fouiller ces zones d'ombre. Donc, je regarde Juliette parce que il y a mon travail d'auteur, et puis après, il y a surtout le travail de Juliette, qui ça retransforme l'écriture et ça retransforme le personnage et les choses que j'avais pas imaginées en écrivant. Quand on écrit un texte de théâtre, c'est une matrice, c'est une première matière, et le metteur en scène redonne un autre sens par-dessus. Surtout dans ces cas-là où tu avais une liberté quasi totale de retoucher, et du coup ça donnait un sens à ce personnage qui n'est pas foncièrement bon. Donc déjà, au-delà de l'infidélité dans son trajet, et même dans son comportement, il a des côtés colériques qui partent d'un coup, il a une fierté, et quand il revient chez lui, est-ce qu'il est encore à sa place quand il retrouve Pénélope et Télémaque?
Donc. C'est vrai qu'il y avait quand même cette idée-là de briser un peu l'image du héros antique et d'imaginer qu'est-ce que serait un héros au XXIe siècle. En quoi consisteraient ses missions? Et puis aussi, c'est forcément une image moins lisse que celle d'Homère, par exemple. Et là, c'est ça. Enfin, il y a toute une partie un peu psychanalytique qui rentre en compte, c'est-à-dire que on prend en compte et les actes d'Ulysse et aussi leurs conséquences sur lui, sur le monde, voilà. Et l'idée, c'est que je pense quand même que ce que raconte ce spectacle, c'est quand même la quête d'un citoyen pas tout à fait lambda au milieu d'un monde qui est géré par les nouvelles toutes-puissances qui ne sont plus les dieux, mais plutôt la recherche du profit et un capitalisme effréné. Et c'est de raconter ça, en fait, la quête de ce citoyen-là, pour essayer d'échapper un peu aux manipulations dont il est victime, comme on peut l'être tous, nous, à notre simple place de citoyen. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on utilise comme outil? Est-ce qu'on utilise les outils de ceux qui nous oppressent? Est-ce qu'on en invente d'autres? Voilà, c'est vraiment ça l'objet, je dirais, du spectacle.
Et Michael, toi sur scène, est-ce que tu... Alors qui tu incarnes comme personnage? Es-tu Ulysse?
Non, je ne suis pas Ulysse. Je ne suis pas Ulysse, j'ai plusieurs personnages. Mm-hmm. Donc ça, en fait, pour découvrir, il faut venir en fait le 7 février à Jean Carmet.
Quel sens de l'annonce et de l'appel.
Je peux quand même dévoiler que...
Il était commercial avant. Hein.
Voilà, je peux quand même dévoiler que Ulysse, c'est Fabio.
Ah, c'est Fabio.
Mais c'est un hasard, parce que je ne devais pas être Ulysse. C'est des histoires de distribution.
On peut dire qu'il y a aussi Clémence Solignac, oui. Et puis oui, il y a Nicolas Chapelier.
Nicolas Chapelier, Benjamin Béliard aussi. Également, ouais. Zora Renoir à la lumière.
On est voilà. Quatre sur scène.
Lucille Cartreau qui a aidé aux chorégraphies et regards artistiques, collaboration.
Mmh. C'est aussi une création que vous l'avez jouée pour l'instant deux fois. Ouais. Voilà. À penser, donc c'est vraiment l'occasion. Venez à Jean Carmé.
Venez à Jean Carmé. Mur Urinier.
Non, et puis voilà. Pour ce qui est de la distribution, il y a vraiment le parti pris d'incarner le personnage d'Ulysse, enfin de faire incarner le personnage d'Ulysse par un seul comédien, et que tous les autres personnages croisés pendant cette quête-là soient pris en charge par les trois autres comédiens sur le plateau. Voilà, parce qu'il y en a des visages à faire exister, à incarner des monstres, des humains, des rois, des princes, des... Voilà.
Et c'est pas compliqué en tant que comédien de passer de l'un à l'autre, Michael ?
Bah, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir là, dans les 15 derniers jours de création où on était à Poincé, là, au petit théâtre de Poincé, un très beau théâtre. Mmh. Eh bien, ouais, ça a été une belle aventure de visiter tous ces personnages. Et donc, j'ai hâte de retourner sur scène le 7 février à Jean Carmé.
Ouais, je redonne toutes les dates. Donc, c'est à 21h à Jean Carmé, à Mur-et-Rigny. Ça, c'est pour Ulysse 21. Et juste avant, on a parlé de Dédale. Et ça, ce sera vendredi. C'est déjà ce vendredi, le 24 janvier à 21h aussi. Je vous propose, avant qu'on parle d'une autre soirée dont le principe me paraît assez fou et assez formidable, qui est la soirée sans Valentin. Le 14 février, évidemment, qu'on écoute un titre, et c'est Danse du souffle du Larsen. Et c'est, évidemment, ils seront sur scène. Lovis, je te vois réagir.
Face à l'orage, le feuillant chante, la pulsation, le gazon suce arrosé. 23h17, 28 degrés optimal, c'est la plus belle nuit de l'année, celle du pare-brise. Interstellaire, chasseur d'étoiles et jument le bitume. Au niveau inférieur, le vaisseau attend son heure. Glissé dans le cockpit, le pied en contrôle sur la pédale. Compte à rebours. 10, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Un éclair et gronde le moteur. Filant dans la nuit, comète meurtrière. Dans les nuages, moucheron que mes deux étoiles. Les demoiselles se grisent au soleil des timbres. Immortalisent au pare-brise décollage dans le noir. Dans les vapeurs chaudes je plonge. À
écoutez Radio G et l'oreille curieuse qui est consacrée ce soir au centre culturel Jean Carmet. On a parlé de Ulysse 21, on a parlé de Dédale et maintenant on va parler d'une soirée incroyable.
Incroyable.
Incroyable, en tout cas un principe qui je pense était attendu, même si vous ne saviez pas que vous l'attendiez. C'est la soirée Saint-Valentin qui a lieu le 14 février.
C'est ça.
On va y voir de la musique, le souffle du Larsen qu'on entendait. Avec toi, Clovis. Il y aura aussi du théâtre.
Avec la compagnie Ramdam et ouais. Le spectacle Consorama.
Comment est née cette envie, cette drôle d'idée de faire une Saint-Valentin ?
Alors,
c'est la première ?
Oui, c'est la première. L'idée, c'est en fait, c'est comme tous nos projets, ça naît de rencontres, en fait. Ça naît de rencontres, une découverte, un spectacle, un concert. Enfin, voilà, c'est... C'est comme la Saint-Valentin, c'est une rencontre et du coup on a envie de travailler ensemble, on a envie de passer une bonne soirée, on a envie de la partager et on a surtout envie de l'offrir en fait. J'ai envie que vous puissiez découvrir Consorama et surtout avec ses comédiens, donc on a Thomas et
Guillaume.
C'est vraiment, vous allez tomber amoureuse, c'est obligé. Ensuite on a le souffle du Larsen et c'est pareil, c'est deux univers, deux ambiances.
Vous allez sûrement tomber amoureuse, voilà.
C'est obligé parce que ils sont charmants. Le parti pris de vous emmener de. Non, c'est vraiment de la découverte et en fait c'est l'envie de créer un projet ensemble, de bosser ensemble. On a des heures d'écriture autour d'une table, de rencontres,
De nuit blanche, hein, de café, de lit de café bu. Voilà,
à penser
à ce projet, à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire accéder à l'amour tout ce public.
Voilà,
c'est un peu ça. La phrase était un peu bancale, mais c'était un peu l'idée. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est aux auditeurs.
Venez.
Chers amis auditeurs, cette soirée, elle est faite pour vous. Hein, elle est faite pour vous. Et en fait. Peut-être que vous ne trouverez pas l'amour ce soir-là,
non.
Mais vous trouverez de l'amour. Et ça, c'est important.
C'est super.
L'amour n'est pas obligé d'être une personne pour toujours.
Est-ce que tu peux développer un petit peu ? Ça m'intéresse.
Oui, je voulais juste élargir l'idée de trouver l'amour.
Je vois bien
l'élargissement.
Ouais, je vois bien.
Oui, Michael.
J'ai une question. Est-ce qu'en fait, on peut venir en couple
Mais bien sûr, Michael. Peux venir en couple ou en célibataire. Cette soirée est faite pour tous. Pourquoi Saint-Valentin ? En fait, on voulait faire une contre-soirée à la Saint-Valentin. C'était l'occasion de réunir donc ces deux univers. On a fait appel à Erwan Barbier qui nous a écrit cette soirée parce que même si elle paraît folle, en fait...
Il y a des vraies propositions.
Voilà, il y a une vraie proposition, un travail artistique derrière. Merci Erwan. Il a son cours de piscine là. Mais merci Erwan. Et du coup...
Du water bike.
Voilà. Et du coup... Non. C'est en fait la salle, on va carrément la remodeler, on va recréer une ambiance un peu années 80. J'avais envie de revivre une boom, donc je compte sur Erwan, si tu m'entends. Du coup, il va y avoir des jeux. Enfin, je veux dire, c'est l'occasion pour tout le monde de se rencontrer, on peut venir tout seul, parce qu'il y a déjà des personnes qui sont venues acheter leurs billets et qui nous ont posé des questions. Après, vous pouvez venir seul, il va y avoir des jeux, il va y avoir vraiment ces spectacles, en fait. C'est quand même des professionnels qui sont derrière et qui proposent travail.
Oui, la Saint-Valentin, c'est l'occasion, mais d'avoir une proposition...
C'est ça, j'ai
bien hâte, je répète bien, c'est Saint-Valentin, et même Saint-Valentine, et sans tout ce qu'on veut. Parce que pas la Saint, la Saint. Voilà, et qu'est-ce que j'allais dire ? On allait s'amuser.
Et que vous aviez travaillé aussi.
De la bienveillance.
Autour de l'amour.
Tout à fait.
Voilà, c'est parce que
On a un set. Alors, pour parler du souffle du Larsen, du coup, on travaille sur une mise en amour de notre set. Voilà.
Votre set qui initialement c'est
plutôt rock,
un peu décalé aussi.
Rock et décalé, on est en peau de bête un peu sur scène, donc on n'est pas loin de l'amour quand même déjà. Hein, la peau de bête et la peau de bête est présente. Mais on va retravailler quelques morceaux qu'on a déjà fait, mais avec un tempo un peu plus bas et avec un chant un peu plus suave. Voilà, et puis peut-être qu'on va inviter à danser, le public.
Le quart d'heure slow.
Des petites choses. Un slow, évidemment.
On a la boule à facettes. J'ai envie de dire, vous allez découvrir Jean Carmet comme vous ne l'avez jamais vu.
Ça peut faire un peu peur. tous devoir danser un slow et tout.
Mais non,
alors, il n'y a pas d'obligation. Et c'est surtout, il y a de la bienveillance.
Oui.
C'est le maître mot, c'est la bienveillance. On ne va pas se moquer des gens. L'idée, c'est qu'on soit tous ensemble et qu'on s'amuse et qu'on rigole et qui est de l'amour, je le répète.
Et c'est aussi vous voir, vous, le souffle du Larsen, d'une autre manière, en fait, parce qu'on peut déjà avoir vu des concerts, même s'ils sont uniques à chaque fois. Voilà, c'est
peut-être qu'on peut parler un petit peu de Ramdam avec leur projet, parce qu'il est un peu particulier aussi.
Oui, aussi. Mais justement, c'est participatif, c'est ça. C'est une soirée où, en fait, on va pouvoir être acteur aussi. Mais on n'est pas obligé, on ne force personne. Mais on va pouvoir, voilà, partager, chanter.
Consorama est un
donc c'est le spectacle
est un karaoké.
Ouais.
Un spectacle karaoké où c'est bien barré parce que c'est deux zigotos qui sont un peu complètement tapés de la caisse. Hein, je pense qu'il faut le dire comme
c'est
ça.
C'est clair.
Et ils peuvent nous amener des surprises. Après, je veux pas.
Et ce sont des chansons qui ont été écrites, composées pour Consorama ou ce sont des reprises des chansons qu'on
karaoké,
connaît déjà.
Qui dit karaoké dit reprise.
Ah, oui. Donc on peut connaître déjà le répertoire.
Évidemment. Alors je pense que ça va être un top 50 des chansons d'amour. Hein. Eros Ramazzotti, En veux-tu, en voilà. Laura Pausini, hein, je parle des Italiens parce que
oui,
c'est quand même les plus.
Grazie.
Et en tout cas, peut-être poser aussi le cadre de Consorama, on imagine que c'est les employés d'une entreprise qui ont décidé de créer leur karaoké, de tout faire eux-mêmes. On arrive un petit peu au milieu de cet univers-là.
C'est ça, c'est deux salariés d'entreprise qui décident de promouvoir la marque de l'entreprise et de faire de la com en extérieur. Et du coup, quel est le meilleur moyen que de faire de la com par le karaoké ? Super moyen. Donc voilà, enfin en Asie du Sud-Est, ça marche très très bien. Mmh. Moins en France peut-être, mais...
Bon, on va essayer.
Mais voilà, c'est...
En tout cas, vous essayez, oui, pour la
deux sacrés personnages.
Métropole Sud-Est.
On a repris le concept... Ouais, non, on est motivé, puis c'est vraiment... Non, on est,
voilà, donc, si vous êtes tout seul ou accompagné, ou, voilà, n'hésitez pas à venir,
ouais.
On va rigoler.
En tout cas, c'est la parfaite contre-soirée, je pense que c'est vraiment un peu le terme, parce qu'effectivement, il y a plein de programmations express Saint-Valentin, alors qu'ils peuvent être superbes, mais qui peuvent être...
Du coup, je me rappelle de ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que j'espère qu'il y a des gens premier degré qui vont venir, voilà. Si vous êtes au premier degré, que vous pensez que c'est une soirée Saint-Valentin, venez, surtout venez.
Ouais. Ah, je pensais que tu parlais des gens premier degré qui viendraient pour trouver l'âme sœur.
Ah, je parle bien
mais
de ça.
C'est possible.
Je parle bien de ça.
C'est possible. C'est dans ce genre d'occasion qu'on peut découvrir l'amour et avoir un coup de cœur.
C'est génial.
Moi, j'ai rencontré ma femme à Mururigné, par exemple.
Est-ce que c'est vrai ? Je suis pas sûre.
Alors, tu pourrais venir ce soir-là, justement. On vous ferait une table d'honneur.
Bah oui.
Mais c'est vos 10 ans en plus.
Mais oui, c'est ça.
On parlait la semaine dernière, c'est vos 10 ans.
C'est ça, c'était nos 10 ans à Mururigné, sous le regard de Jean Carmet. Ouais, je me souviens.
Ah, ça, c'est
la classe.
J'ai roulé une pelle en regardant Jean Carmet. Ouais, je me souviens.
Et est-ce que, Aurélie, vous envisagez de reprendre cette soirée Saint-Valentin déjà chaque année ou vous verrez déjà
non,
comment ça se passe?
C'est vraiment là, je pense que ça va être grandiose. Bah, un grand moment.
Ça dépend combien de couples qui se forment ou qui se déforment d'ailleurs.
Ou la demande.
Mais après, on pourra faire peut-être un vote. Mmh.
Mais donc, il est possible que ce soit une soit unique dans l'histoire de l'humanité.
Je pense. Ouais, dans ces soirées.
Annonce le cartel.
Dit comme ça, c'est assez vertigineux. Hein. Mmh.
One shot of love. Ouais.
Mmh. C'est ça. Non, c'est vraiment soirée. Love.
C'est ça. Bon, je redonne ce que je vois qu'en fait, il nous reste. Presque plus de temps, c'est le 14 février au Centre culturel Jean Carmet. L'entrée est à 5 euros, au fait, tarif unique.
Oui, parlez-en à vos amis.
Parlez-en à vos amis, à vos collègues.
C'est pas cher pour l'amour.
C'est pas cher pour l'amour, c'est vrai. Il y aura Consorama de la compagnie Ramdam et le souffle du Larsen qui aura revu entièrement son set. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit se redire ou qu'on a oubliées, hyper importantes?
Non, que là, regardez les réseaux sociaux et je pense qu'on va commencer à partir de ce soir à communiquer sur cette
info qui s'écrit encore un petit peu actuellement.
Mais oui.
Mais oui.
qui s'écrira jusqu'au bout.
Et je pense, oui.
Ok. Merci beaucoup.
Merci.
Aurélie, Fabio, Michael, Juliette et Clovis. Merci beaucoup d'avoir trouvé un moment pour venir parler de toutes ces choses que vous faites.
Merci, Anne-Li.
Merci.
À bientôt.
À bientôt. Eh bien oui, moi je dis à demain aux auditeurs et aux auditrices. Très beau, je vais avoir du mal à couper l'antenne. Demain on parlera de premier plan et si vous voulez être avec nous pendant l'émission, rendez-vous entre 15h et 16h au centre des congrès. C'est gratuit, ce sera formidable. bonne soirée, à demain. Et le prochain titre dans la programmation là, qu'on va entendre, c'est The Jesus Unmarried Chain, All Things Pass, et c'est un super titre. À demain.
Radio G 101.5 FM. It's gonna be mine.